Conclusion. Le hume émotionnel. Depuis quelques décennies, un bourdonnement sourd, mystérieux et envahissant est observé par plusieurs chercheurs. Un son étrange qui se fait entendre dans plusieurs régions du globe et dont l'origine est inconnue. Certains prédicateurs de la fin des temps, qui ont rebaptisé ce phénomène « trompette de l'Apocalypse », y voient une sorte d'orage avant la tempête. Le signe que la Terre se rebiffe contre les maltraitances qu'on lui inflige, comme en témoigne l'augmentation de la fréquence des séismes, des cyclones, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des canicules, etc. La Terre serait prête à exploser d'un moment à l'autre sous l'effet du réchauffement climatique, entraînant le chaos. Ainsi ai-je envie, dans ce livre sur la contagion émotionnelle, de vous avertir des possibles effets à long terme de ce que j'appelle le hume émotionnel, ce trop-plein d'émotions négatives collectivement partagées sur notre planète et qui pourrait un jour nous amener dans des mouvements de masse gigantesques, à nous entre-déchirer. Car nous sommes entrés dans le siècle de la surémotionnalité. Il n'y a qu'à voir le niveau d'irritabilité des gens. Jamais la contagion émotionnelle n'a été si intense. Combien de fois ai-je vu, après un simple accrochage entre deux voitures, les automobilistes sortir de leur véhicule rouges de colère et se mettre à hurler ou à se cogner dessus. L'incident n'était qu'un prétexte pour évacuer un trop-plein d'émotions toxiques emmagasinées en eux. Le négatif l'emporte ainsi souvent sur le positif, ce qui fait que notre civilisation est en déséquilibre émotionnel. Mais qu'est-ce qui fait dresser, à l'optimiste que je suis, ce constat pessimiste. Le jour du dépassement. Les émotions négatives sont plus contagieuses que les positives, nous l'avons vu. Mais au-delà, je pense que les principales ressources d'émotions positives naturelles, celles dont notre corps et notre tête ont besoin pour qu'un équilibre psychique puisse être trouvé, se tarissent ou sont tout simplement délaissées. Le hume émotionnel est en réalité intimement lié au hume tout court. En 2018, au 1er août, dit jour du dépassement, l'humanité avait déjà épuisé toutes les ressources que la planète pouvait produire cette année-là. C'est-à-dire consommer plus d'arbres, plus d'eau, exploiter plus de sols fertiles et pêcher plus de poissons que ce que la Terre peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer. Et émis plus de carbone que les océans et les forêts peuvent absorber, d'après des représentants de la WWF. C'est comme si l'on vous avait confié pour subsister un budget annuel et qu'au 8e mois, vous aviez déjà tout dépensé. Ne vous reste plus qu'à vivre les 5 mois restants à crédit. Depuis des années, les choses empirent. En 1970, le jour du dépassement était le 29 décembre. En 1980, le 4 novembre. En 1990, le 13 octobre. En 2000, le 23 septembre. Quel lien avec le hume émotionnel et la contagion émotionnelle? Eh bien, l'obsolescence environnementale programmée, à travers la déforestation et l'urbanisation, pourrait engendrer un dérèglement émotionnel sans précédent, qui nous fera à terme entrer dans une folie collective, où les émotions toxiques régneront en maître, se propageant comme une traînée de poudre dans la population, car elles ne seront plus canalisées par la nature. Je l'ai compris en regardant un documentaire intitulé « L'appel de la nature » sur France 5, dans lequel l'écrivain David Jessner explorait l'impact émotionnel de notre environnement sur nous. Il s'intéressait notamment aux effets néfastes de l'agitation de la ville et à ceux au contraire bénéfiques de la nature, sur le cerveau humain. Un chercheur interviewé parlait de psychologie environnementale, aussi appelée éco-psychologie. Cette discipline ne m'était pas étrangère, mais c'est là que le lien avec la contagion émotionnelle m'est apparu de manière évidente, et que je me suis demandé quelle influence la dramatique réduction des espaces verts, par des phénomènes d'urbanisation et de déforestation, peut avoir sur les émotions de l'individu. Ma conclusion est aujourd'hui, quelle est cette influence? gigantesque. Place à l'hémosynthèse. Être souvent au contact de la nature, c'est-à-dire la regarder, l'écouter, voire la toucher, nous procure, d'après des centaines de recherches scientifiques, tout un tas de bienfaits. Augmentation des niveaux de bien-être et de satisfaction, amélioration de la qualité du sommeil, de la vision oculaire, de la santé psychique et physique, des compétences sociales, du développement cognitif, émotionnel, créatif et moteur de l'enfant, et renforcement du système immunitaire, réduction du stress et de l'anxiété, de la dépression, de la colère, des symptômes du TDAH, trouble de déficit de l'attention, hyperactivité, de la douleur physique, des maux de tête, de l'obésité, du diabète, etc. La sylvothérapie, ou thérapie par les forêts, est ainsi l'une des meilleures ordonnances naturelles que nous pouvons nous-mêmes nous prescrire pour nous décontaminer des émotions toxiques émanant de l'effervescence urbaine, stress, colère, frustration. Ainsi pouvons-nous, par exemple, pratiquer du sport en plein air plutôt que dans une salle de gym, ou nous offrir un bain de forêt, ou Shinrin-yoku, terme apparu en 1982 au Japon, pour nous imprégner de la sérénité et de la sagesse d'arbres souvent plus vieux que nous. Le Shinrin-yoku s'apparente à une sorte d'aromathérapie naturelle. Lors de la balade en forêt, nous respirons tout un tas de substances volatiles émanant des arbres, appelées des phytoncides, huiles essentielles des bois, telles que l'alphapinène et le limonène, connus pour leurs propriétés antimicrobiennes. Des chercheurs sont même parvenus à démontrer qu'un bain en forêt de plusieurs heures, 2 à 3 jours d'affilée, augmenterait l'activité et le nombre des cellules NK, pour Natural Killer, ayant la capacité de tuer des cellules anormales, y compris les cellules cancéreuses. Les arbres, qui sont capables d'absorber le gaz carbonique de l'air pour en rejeter l'oxygène, seraient aussi capables d'absorber des énergies négatives pour nous en transmettre en retour de plus positives. Après la photosynthèse, place à l'hémosynthèse. Ainsi certains pratiquent-ils le « tree hugging », qui consiste à faire un gros câlin à un arbre, les yeux fermés et le front posé contre le tronc, afin de se délester du négatif pour mieux se laisser pénétrer par de bonnes ondes végétales. Les saules nous consoleraient. Les chênes nous apporteraient de la force. Les tilleuls, de la chaleur. Bien que cette drôle de pratique thérapeutique puisse paraître totalement farfelue, de nombreuses études en ont révélé les bienfaits. Attention toutefois, car l'écorce de certains arbres, comme les chênes ou les charmes, abrite des substances irritantes, comme des mousses, qui provoquent de fortes démangeaisons sur tout le corps. En étreindre d'autres peut même se révéler extrêmement dangereux. Prenez par exemple le mancenillier, très répandu en Martinique et en Guadeloupe et surnommé « arbre de la mort ». Il produit un latex extrêmement toxique, qui déclenche par simple contact cutané ou avec les muqueuses une réaction inflammatoire intense. Choisissez bien votre arbre. La vie secrète des arbres. Nous l'avons vu, une autre forme de contagion émotionnelle interespèce, végétale et humaine en l'occurrence, semble exister. C'est possible car les végétaux eux-mêmes auraient la capacité de ressentir, certes différemment de nous, des émotions comme la douleur et la peur. Cette capacité serait augmentée d'une forme d'empathie et de solidarité, comme l'a révélé au grand public Peter Volleben, garde forestier et auteur du best-seller « La vie secrète des arbres ». À Clermont-Ferrand, des chercheurs ont démontré que les arbres sont sensibles et qu'ils ont une mémoire. Dans une forêt, les arbres semblent pouvoir communiquer leur stress et leur peur entre eux, sur de longues distances même. Comment ? Grâce à leurs racines entremêlées et un large réseau de filaments blancs que l'on retrouve sur des champignons cachés sous des feuilles mortes et qui, ensemble, forment une sorte d'Internet de la forêt, Wood Wide Web. Ainsi, en cas de danger, l'arbre réagit. Par exemple, si un animal commence à manger ses feuilles, il modifie leur composition chimique pour les rendre amères et toxiques, et en même temps envoie à ses congénères un signal d'alerte via le réseau Internet dont nous parlions, sous forme d'impulsions électriques progressant à la vitesse d'un centimètre par minute pour les prévenir. À leur tour, ses voisins rendront leurs feuilles immangeables. Par ce même réseau, les arbres démontrent leur empathie. Quand l'un d'eux est malade, ses congénères l'aident à guérir, en le nourrissant par les racines. La contagion entre arbres n'est cependant pas que souterraine. Un exemple. Dans la savane africaine, les girafes et les antilopes se nourrissent de feuilles d'acacia dont elles raffolent. L'acacia, comme on l'a vu, augmente alors la teneur en tanins de ses feuilles pour les rendre incomestibles, voire létales, et prévient ses congénères environnants. Mais cette fois, le message est envoyé par voie aérienne. Les feuilles d'acacia déchiquetées par l'animal libèrent dans l'air un gaz, de l'éthylène, qui se répand dans un rayon de quelques mètres et se dépose sur les feuilles des arbres voisins, qui sont ainsi mis en garde. À noter que les antilopes et les girafes se déplacent alors d'une centaine de mètres, évitant les arbres les plus proches. Le goût du plein air. Si nous nous déconnectons de la nature, garante d'un certain équilibre psychique, nous nous nuisons donc à nous-mêmes. Nous serons environ 75% de la population mondiale à vivre en ville en 2050. Combien d'espaces verts auront résisté ? Pourtant, une étude menée sur les habitants de Londres a révélé que ceux qui vivent dans les rues les plus verdoyantes consomment moins d'antidépresseurs. On plante bien des arbres commémoratifs. Pourquoi n'en planterions-nous pas des communicatifs, pourvoyeurs d'émotions positives ? Une première initiative écologique et psychologique simple qui nous permettra de léguer à nos enfants un monde meilleur. Et retrouvons le goût du plein air, en modérant celui du plein écran. Quand on met le nez dehors, de temps en temps dans des espaces verts, au retour, dedans, nos textos, tweets, posts, likes et dislikes seront plus réfléchis et apaisés. Et on traîne un peu moins sur le net, ce qui diminue peut-être le risque de quelques bévues. Nos cerveaux ont été hijackés, et par les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, et par notre boîte mail, et par notre téléphone portable, qui permet l'accès aux deux, où que l'on soit. Et l'e-contagion émotionnelle de masse qui se produit sur les réseaux sociaux ne charrie pas que des bonnes ondes. On attaque, on dénigre, on insulte, on lynche, on endoctrine, on complote. Lors du référendum anglais sur le Brexit, par exemple, 13 500 bots, faux comptes Twitter, russes, auraient posté près de 65 000 tweets pendant un mois. Des tweets à connotation eurosceptique, mélangeant haine, colère et mépris vis-à-vis de l'Union européenne, pour influencer les votes. Ce n'est pas nouveau de manipuler les foules par l'affect. Simplement, Internet a rendu cela plus simple, plus rapide, plus efficace et plus cool. Aussi, nos boîtes mail croulent-elles sous des messages à caractère faussement informatif de copywriters. Une nouvelle espèce d'hypnotiseur est née, qui, à coup d'emails volontairement anxiogènes, parviennent à nous faire cliquer, soit pour acheter un produit, un service, soit pour signer une pétition. Nous sommes devenus des boulimiques du net et du téléphone. Pris en otage par cette hyperconnexion, nous ressentons comme un syndrome de Stockholm vis-à-vis de nos geôliers digitaux. Les dynamiques intergénérationnelles. Certains tombent même amoureux de leur téléphone, pour lequel ils éprouvent une profonde empathie, au point que devant la question « Qui préféreriez-vous sauver entre votre smartphone et votre oncle ?» certains hésitent. « Moi, pas. » Ou « plus. » Car souvenons-nous, l'autre ressource dont nous disposons pour réguler nos émotions toxiques, en plus de la nature, c'est la famille. J'en ai beaucoup parlé dans ce livre, Elle est, si vous vous souvenez bien, une valeur psychique refuge qui nous aide à restaurer, quand nécessaire, un équilibre émotionnel. Or, en France, en 2014, sur 5 millions de personnes considérées comme socialement isolées, 27%, soit 11% de plus qu'en 2010, étaient des personnes âgées, coupées de leur famille, de leurs amis et du voisinage. 41% des plus de 75 ans ont peu ou pas de contact avec leurs propres enfants et, par voie de conséquence, avec leurs petits-enfants. Cela s'explique en partie, comme nous l'avons vu, par des rancœurs ou des conflits. Mais pas seulement. Les rythmes professionnels effrénés chez les actifs et la fatigue physique et mentale que cela entraîne, la mauvaise gestion du temps de cerveau disponible pour les moments off, en partie occupés à traîner sur le net et sur notre portable, font qu'on trouve moins le temps de voir ou d'appeler les plus âgés. Tout un tas d'arguments peuvent être évoqués pour essayer de se dédouaner. Mais l'isolement de nos anciens est inacceptable et provoque un véritable dérèglement émotionnel dans notre société, appauvrissant nos ressources psychiques potentiellement mobilisables. C'est pourquoi il faudrait prendre un peu sur soi, afin de réinstaurer des dynamiques intergénérationnelles au sein des familles. Tout le monde y gagnerait. On pourrait inclure dans cette réflexion les animaux de compagnie, qui provoquent en nous des émotions positives à foison. De ce point de vue, la France paraît plutôt bien lotie, puisqu'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie. Environ 30 millions dans notre pays, d'où le titre de la célèbre émission télévisée. Cependant, 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année, notamment durant l'été. Ces petites bêtes-là, dont on a vu qu'elles ressentent des émotions, contribuent en partie à restaurer chez nous un équilibre émotionnel. Cela devrait nous faire réfléchir. Partageons des ondes positives. En dehors de la nature et de la famille, les deux mamelles de notre équilibre émotionnel, certains comptent sur l'État, psychique, providence. À l'heure où le président Macron et sa ministre du Travail veulent faire, à travers la Happy Tech, de Paris et de la France la capitale du bien-être au travail. D'autres misent plutôt sur l'équipe de France de football. Davantage d'ailleurs que ceux qui croient aux politiques. Floquer une nouvelle étoile sur le maillot national et la folie s'emparera de tout un pays. TF1, l'un des diffuseurs officiels de la Coupe du Monde, ne s'y est pas trompé quand, en 2018, elle a choisi comme slogan « Partageons des ondes positives ». Quand l'équipe de France a gagné, une joie immense s'est répandue dans tout le pays, faisant vibrer des millions de personnes à l'unisson. Les coups de klaxon retentissaient partout, célébrant une victoire devenue celle de tous. Le fameux R0, que les scientifiques utilisent pour mesurer la contagiosité d'un virus, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes qu'une personne contagieuse pourrait infecter, a atteint ce jour-là un niveau record. Bien sûr que la victoire de l'équipe de France a fait du bien. Et combien de temps dure un tel effet importe finalement peu. Qu'il se produise est déjà bien. Mais la vraie question est celle de sa portée émotionnelle à l'échelle planétaire, puisque l'on parle ici de hume et pas d'une simple toux. Une Coupe du Monde, c'est un vainqueur et 31 perdants. Un pays qui sourit tout entier versus 31 qui font la moue. Il n'y a qu'à se rappeler la réaction de certains de nos amis belges après leur défaite. Ainsi peut-on se poser la question. De quel côté la balance émotionnelle, au niveau mondial, a-t-elle penché finalement? La nature, la famille, le pays. Nous comptons beaucoup sur notre environnement pour émotionnellement nous refaire. Mais si nous comptions d'abord sur nous-mêmes, nous disposons à présent d'outils comme le sas de décontagion émotionnelle nous permettant de déminer certaines situations explosives. J'ai entendu un jour Alain Mérieux, âgé de 80 ans et à la tête de l'entreprise qui porte son nom, donner un conseil plein de bon sens à des étudiants. Arrêtons de nous entourer de cons, de personnes toxiques. J'ai attendu mes 70 ans pour le faire et depuis, je suis heureux. Suivons son conseil et essayons de limiter nos interactions avec ces personnes toxiques que Robert Sutton appelle affectueusement les sales cons et dont nous avons révélé la contagiosité dans ce livre. Et en passant, que les personnes qui se sentent à l'aise dans un environnement pollué par ce type d'enflure émotionnellement toxique se posent des questions. Car ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que de s'être adapté à une entreprise malade. Transformons également nos faiblesses en forces. Notre narcissisme peut nous aider à nous auto-contaminer d'émotions positives et, par la force des choses, à propager des émotions plus constructives et positives autour de nous. Posons, comme nous l'avons vu, d'abord le masque à oxygène sur notre visage avant de vouloir sauver la personne à côté de nous. Comment ? C'est simple. Selon des chercheurs anglais, un homme se regarde dans un miroir en moyenne 23 fois par jour. Une femme, 13 fois. Les miroirs sont partout. Et le narcissisme qui va avec aussi. Eh bien, c'est une chance. Chaque fois que nous nous contemplons dans la glace, cela nous donne l'occasion de chasser les émotions négatives. En jouant à l'Actor Studio. Si vous êtes, par exemple, triste, feignez la joie sur votre faciès en pensant à un épisode heureux de votre vie. Essayez de sourire avec votre bouche et vos yeux et tapotez vos joues pour vous donner meilleure mine. Tenez ensuite la posture quelques minutes. Logiquement, par effet miroir, vous devriez tendre rapidement vers un état plus positif. Chaque émotion a son partenaire supersymétrique ou son antiparticule. Pour la tristesse, c'est la joie. Le dégoût, l'acceptation. L'angoisse, la sérénité. Etc. Pour retrouver l'équilibre, il nous suffit de jouer la partition émotionnelle antinomique et d'être influencé par notre reflet. Dracula ne pouvait pas le faire. Voyez comment il a fini. Le dérèglement émotionnel de notre société a commencé. La montée de la colère jaune en France n'étant qu'un signe avant-coureur parmi d'autres. Comme ces montres qui, à cause d'une pile usée, se mettent à dysfonctionner. Cela se fait progressivement et est, au début, imperceptible. Il y a d'abord un décalage de quelques secondes, puis de quelques minutes, puis de plusieurs heures, avec l'heure exacte. À nous de renverser le cours des choses. Dans mon précédent livre, je militais pour une alimentation et une éducation, parentale et scolaire, plus émotionnellement intelligente. Prenons cette fois conscience que nous faisons partie d'un tout. Ce qui nous affecte peut, par effet de contagion, affecter le reste du monde et les générations futures. Quelle empreinte émotionnelle souhaitons-nous leur léguer?